l'occasion du second tour des élections municipales du 28 juin 2020, l'équipe de Radio Ondaine et Philippe Bory de Radio RLF vous invite à entendre un débat entre les candidats de la commune de Firminy avec Anne-Sophie Puteau pour Firminy l'élan citoyen, Julien Luyat pour la liste Union pour Firminy 2020 et Marc Petit, maire sortant, pour la liste Ensemble pour Firminy.
Je vous propose aujourd'hui d'aller du côté de Firminy pour le débat donc avant ce deuxième tour des élections municipales du 28 juin prochain. Dans nos studios, Anne-Sophie Puteau de l'Élan Citoyen, 15,58% au premier tour. Marc Petit, le maire sortant, Ensemble pour Firminy avec 34% au premier tour. Et Julien Luyat de l'Union pour Firminy, 35,45% des voix au premier tour. Tous les trois donc qualifiés pour ce second tour. Messieurs, dames, bonjour. Pour commencer, rapidement un tour de table donc, de présentation un petit peu à nos auditeurs. Et on commence, honneur aux dames, par Anne-Sophie Puteau.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Puteau, j'ai 35 ans, je travaille dans la fonction publique territoriale, je suis maman de deux enfants, je suis à Pelouse de naissance et donc je milite depuis de nombreuses années dans divers mouvements de gauche.
Marc Petit.
Maire de Firminy, donc depuis 2008, conseiller général aussi, maintenant départemental, à Plou depuis aussi toujours, voilà, et puis papa aussi de, voilà, de deux filles, deux belles filles, deux charmantes filles, et voilà. Très heureux.
Julien Luyat.
Oui, donc Julien Luyat, donc je suis le tête de file de l'association Union pour Firminy depuis quand même quelques années. Alors moi aussi, hein, j'ai grandi, vécu à Firminy. Et donc je suis l'assistant parlementaire du député Cinieri depuis une petite vingtaine d'années. Donc voilà, je pense que voilà, quelques connaissances sur les dossiers locaux, sur la manière de gérer une collectivité, c'est important. Et puis voilà, une volonté d'avancer avec une équipe de grande diversité.
Alors, tous les deux, Julien Luyat, Marc Petit, vous êtes Marc Petit, maire de Firminy, Julien Luyat, élu dans l'opposition. Et vous, Anne-Sophie, plutôt, pour l'instant, vous n'avez pas de mandat.
Non, pas pour l'instant. Dans notre équipe, par contre, nous avons Arthur Colombet, qui, lui, siège actuellement au conseil municipal dans la majorité.
D'accord. Alors, on commence à sortir, en fait, de cette crise du Covid-19. Comment vous l'avez géré, vous, sur la commune, Marc Petit?
Donc, d'une part, ça a été pour tout le monde. Pour les Aplous comme pour tous les habitants, un choc de se retrouver du jour au lendemain avec une telle crise et avec de telles conséquences. Il y a une mobilisation extrêmement forte, à la fois de l'ensemble des élus d'équipe municipale, de nos agents municipaux. Je peux vous dire vraiment quelle chance d'avoir un tel service public municipal avec des agents, des responsables qui parfois en télétravail travaillaient très tard, tous les jours, le week-end, jour férié, avec comme seule préoccupation, comme nous toutes et nous tous, protéger les habitants. On a mis en place de nombreuses mesures. Très rapidement, l'ensemble des services publics municipaux essentiels ont été mis en œuvre, avec, vous le savez, chaque jour des directives nationales du préfet qu'on devait mettre en place, parfois des directives très difficiles à mettre en œuvre du jour au lendemain. Et globalement, on a réussi à ce que, grâce à l'action des Aplous, aussi de se protéger, de faire attention. Eh bien, globalement, au niveau de notre ville, comme les villes alentours, on a été relativement épargnés. Mais soyons vigilants, le virus continue de circuler. Et là, je peux dire qu'on a eu un très beau partenariat, notamment avec l'ensemble des services publics. Je pense à l'hôpital, où j'avais le directeur de l'hôpital régulièrement, où là aussi, il y a une mobilisation au niveau de l'ensemble des soignants, du personnel de l'hôpital, je dirais exceptionnelle, comme nos agents au niveau des EHPAD, je suis d'ailleurs allé en voir ce matin, comme au niveau de notre foyer du Maine, enfin dans tous les secteurs. Ou par exemple au niveau de l'hôpital, ils ont déplacé certains services du jour au lendemain pour pouvoir accueillir des personnes atteintes du Covid. Et là, j'espère vraiment que les habitants ont mis en avant quelle chance d'avoir de tels services publics. Il y a eu des discours du président de la République. On espère vraiment tous, il est grand, grand temps, que d'autres moyens humains, que d'autres moyens financiers soient loués à l'ensemble de nos services publics, que ça soit l'hôpital, comme l'ensemble des services. Parce que je peux vous dire, dans nos EHPAD, dans notre foyer du Mail, ou au niveau de l'état civil, donc tous les services, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Et ça, je crois que c'est le fruit, justement, de l'ensemble de ces salariés.
Julien Luyat et Anne-Sophie Puteau, si vous aviez été aux responsabilités, comment vous l'auriez géré? Et puis pour vous, l'a-t-elle bien été par la commune?
Oui, alors je vais commencer. Donc du coup, oui, alors Marc Petit nous dépeint une situation un peu idyllique, ce qui est bien évidemment très éloigné de la réalité. Moi, comment je l'aurais géré? Je pense que je l'aurais géré au contraire de ce qu'a fait M. Petit. Et comme ça, je pense que j'aurais été un peu plus dans la vérité. Il est clair que, voilà, je le rejoins sur un point, c'est qu'on a une belle mobilisation du personnel de la mairie et des agents. Le problème, c'est que le personnel de la mairie et les agents ont été très mal dirigés. Les décisions qui ont été prises n'ont pas toujours été à la hauteur des enjeux. Déjà, dans un premier temps, voilà, M. Petit nous explique que c'était une situation exceptionnelle, grave et tout. Et là, là-dessus, on ne peut que le rejoindre. Et justement, quand on est confronté à une telle gravité, à une situation qui est vraiment inédite, que, voilà, on nous parle d'expérience, mais personne n'a de l'expérience face à une situation comme ça. Et donc, dans ce cadre-là, quand on est confronté à une situation comme ça, complètement nouvelle, et ben, on concerte. On n'agit pas seul. On prend soin de questionner les gens qui peuvent avoir une expertise dans le domaine médical, dans le domaine ben justement de tout ce qui est la logistique, parce qu'après, il a fallu mettre en place des distributions de moyens, de masques, de moyens de protection. Et là, ça a été plus que chaotique à ce niveau-là. Hein. Je rappelle quand même un mois à peu près, jour pour distribuer des masques sur la région. Enfin, sur la commune, excusez-moi, ça me semble être un délai quand même assez long. Marc Petit a distribué une lettre pour dire combien il avait été bon dans cette crise. Cette lettre, en 3 jours, tous les aplous l'avaient. Et bizarrement, il a fallu un mois pour leur acheminer les masques. Donc, quelque part, je trouve qu'il y a un peu de poids de mesure là-dedans. Et puis, je dirais, voilà, concerter, être humble face à cette situation. Et l'humilité, c'est pas la qualité première du maire sortant, visiblement. Donc, être humble et justement concerter les acteurs associatifs, son opposition, les autres élus, Madame Puteau, qui ne siège pas, mais qui aurait pu apporter une expertise aussi. Moi, je sais, tout à l'heure, Monsieur Petit nous expliquait comment ça s'était bien passé à l'hôpital. Ben, je peux vous le dire, puisque c'est un de mes colistiers qui était en responsabilité là-dessus, qui est dans l'équipe du directeur de l'hôpital, Patrick Mado, pour pas le citer, qui a était en première ligne pour la mise en place justement de cette nouvelle organisation où il a fallu créer des lits de réa du jour au lendemain et je peux vous dire qu'il s'en est occupé. Donc je pense que quelqu'un comme Patrick, moi-même et d'autres dans mon équipe auraient été très utiles dans cette organisation et auraient pu modestement apporter leurs contributions, leurs idées. Et je pense que de ce point de vue-là, ça aurait évité de nombreuses erreurs. Alors j'en citerai quand même quelques-unes parce qu'on parle d'erreurs, donc il faut être un peu concret, un peu précis. Je dirais, bon, une distribution des masques a été plus que chaotique, j'en ai parlé. Une qualité de ces masques sur lesquels on peut quand même se poser des questions. Moi, dans cette crise, on a vu de nombreux masques fabriqués un peu partout, qui ont été distribués par divers moyens à la population. Le seul masque sur lequel, comme ça, rien que visuellement, j'apporte tout de suite des doutes, c'est celui de Firmini, parce que c'est vrai qu'il ne ressemble pas du tout aux autres masques qui sont proposés par toutes les entreprises locales. Donc je dirais, et puis bon voilà, on a quand même reçu 17 000 masques de la région, on les a quand même gardés plus de 15 jours en mairie avant de les distribuer aux gens. Enfin c'est quand même hallucinant ce style d'erreur. Qui a pu prendre comme décision, si ce n'est M. Petit, le fait de choisir la facture d'eau pour déterminer combien il y a de personnes par foyer? Ça a généré un nombre d'erreurs incalculables. Moi, tous les jours, des gens venaient me voir pour me dire « on est deux, on n'a reçu qu'un masque, on est cinq, on en a reçu trois, on est deux, on en a reçu cinq ». Donc en fait, ça a provoqué des inégalités énormes entre les aplous. Et puis sans parler de cette gabegie de ce premier masque commandé par la mairie, où on a eu quelques milliers d'aplous qui en ont été destinataires tout de suite. Et puis les autres, ils ont attendu pratiquement 15 jours que la commande soit complétée. Enfin, tout ça, c'est... Ben voilà, moi, c'était difficile, certes, voilà, je peux comprendre qu'on fasse des erreurs, mais à ce niveau-là, moi, j'appelle ça de l'amateurisme, et quand j'entends, quand je lis plutôt dans ce tract que M. Petit est en train de diffuser combien il a bien géré cette crise, je me dis, mais là, c'est même plus un décalage entre les paroles et les actes, c'est un gouffre, c'est un canyon qu'il y a entre ce qui s'est réellement passé et l'image qu'on veut essayer d'en donner à grand coup de communication, M. Petit, donc voilà un peu le canevas général que moi, je m'en fais.
Anne-Sophie, plutôt, alors cette crise, vous, comment vous l'avez... Alors je crois que vous l'avez vécu aussi de par le fait que professionnellement, vous êtes dans le milieu médical ou paramédical.
Non, pas du tout, j'étais en télétravail.
Télétravail.
Oui. Alors moi, tout d'abord, je tiens à saluer le professionnalisme, effectivement, des agents du service public. Hein. Quand on entendait notre président, il y a encore quelques temps, parler des premiers de cordée, aujourd'hui, on voit que les premiers de cordée, ce ne sont pas les PDG du 440 ou les grands entrepreneurs, ce sont bien les caissières, les agents du service public, nos éboueurs, les livreurs, etc. Donc oui, je tiens à les saluer parce qu'ils ont été au front pendant plusieurs mois. Au niveau de la gestion de la crise, c'est vrai que j'étais très étonnée de voir qu'on prenait... Ça a été géré d'une façon purement électoraliste. C'est-à-dire qu'on prenait un petit groupe de personnes qui faisaient partie encore de cette majorité qui a volé en éclats. Et Non, moi j'aurais pas vu ça comme ça, parce qu'on a pris ces gens pour aller effectivement coller des affiches en bas des immeubles. Je pense qu'un maire, c'est un leader. Il doit créer une cohésion d'équipe. Et la meilleure des cohésions d'équipe serait effectivement de consulter tout le monde. Parce que ça aurait tiré tout le monde vers le haut. Et le fait de consulter tout le monde, voilà, comme disait M. Louya, c'est chacun a une petite expertise en la matière. Et du coup, ça aurait permis aux Apelous vraiment d'avoir une autre gestion de crise. Parce que nous, les retours qu'on a eus sont très mauvais. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se sont senties un peu délaissées parce qu'elles n'ont pas les réseaux sociaux, parce qu'elles n'ont pas Facebook, elles n'ont pas Internet. Et donc, comme il y avait beaucoup de communication à travers ça, voilà, ils se sont sentis vraiment abandonnés. Sur la gestion des masques, oui, bah, ça a été assez chaotique, puisque ces masques, au début, n'étaient pas aux normes, puisqu'on a posé la question sur le site de la mairie, et on nous a répondu, sur la page Facebook de la mairie, que les premiers tests ont été concluants. Donc ça voulait dire qu'ils n'étaient pas aux normes. Donc il y avait des masques distribués aux agents municipaux, en contact avec les enfants des écoles et les personnes âgées, qui n'étaient pas aux normes. Maintenant, la norme est arrivée. Norme DGA, très bien. Donc, comme ce deuxième lot de masques qui était arrivé 15 jours après, a été mis sous pli par les agents. Il a fallu redéfaire les enveloppes, enlever le courrier, le premier courrier que M. Petit avait écrit, pour mettre un autre courrier. Donc en fait, les agents ont fait deux fois le boulot. Donc forcément, dans une gestion aussi chaotique, oui, bah, c'est bien de les remercier, parce que leur faire faire deux fois le travail, c'est quand même, voilà, c'est un peu gros quand même. Au niveau des tracts aussi qui ont été distribués, bah, ils sont arrivés effectivement bien plus vite que la deuxième tournée de masques, parce que des colistiers de M. Petit frappaient aux immeubles en faisant croire qu'ils distribuaient les masques. Et en fait, c'était des tracts qu'on mettait dans les boîtes aux lettres.
Eh ben, bravo.
Marc Petit.
Donc,
on n'avait pas terminé, allez-y.
Non, non, mais c'est bon.
C'est bon, Marc Petit. Alors, les masques.
Oui.
Aux normes, pas aux normes, distribués, pas distribués.
Alors, première chose, bon, malheureusement, on a une opposition qui critique pour critique. C'est triste, c'est triste. En voulant me critiquer, ils critiquent, et je peux dire qu'ils ont fait beaucoup de mal à de nombreux agents municipaux et responsables des services publics municipaux. Je peux vous dire qu'ils ont été très affectés. Dire, comme j'entends, que les masques n'étaient pas aux normes, c'est archi faux. Archi faux. Je peux vous dire, ça me fait mal. Quand j'ai vu, notamment parfois, certains responsables, à cause de ces propos calomnieux, ne pas dormir la nuit, on voulait s'attaquer à moi, mais on s'est attaqué à des agents municipaux qui ont fait leur maximum, leur maximum. Je peux vous dire que suite à ces polémiques, il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit. Je trouve que ce n'est pas supportable. On a fait le maximum, et un exemple sur la distribution, toutes les villes de 10 000 habitants et plus de Saint-Étienne Métropole ont commencé à distribuer leurs masques, à partir du 18 mai. Nous, le 16 mai, 80% des Apelous l'avaient. Donc on peut nous critiquer et dire que c'était, mais la réalité, on a été beaucoup plus vite que les autres villes. Et je ne dis pas que les autres villes ont mal fait. C'est facile de critiquer pour critiquer. Mais quand, au total, c'est 48 000 masques qu'on apporte et nos agents municipaux directement au domicile de chacun, eh ben moi, je dis bravo. Vraiment bravo à toutes et à tous pour cette belle mobilisation. Et on a des masques de très grande qualité, parce que notamment, ils sont de catégorie 1, c'est-à-dire c'est la certification pour des masques grand public la plus importante qui protège le plus. Et bien évidemment, que ce soit nos agents et les habitants ont tous eu un masque qui les protégeait. Donc voilà, moi je trouve regrettable de vouloir polémiquer pour polémiquer, de critiquer pour critiquer. Voilà, c'est vraiment regrettable.
Les masques de la région, en fait, pourquoi ils n'ont pas été distribués plus tôt? Parce qu'on a là aussi une polémique à un moment donné.
Sur les masques de la région, déjà, on a attendu un mois entre la conférence, la visioconférence avec le président de la région et l'ensemble des maires pour avoir les masques. On a sollicité à plusieurs reprises, et on a de nombreux mails, la région, on n'avait aucune nouvelle. Et la veille pour le lendemain, on nous annonce tout de suite, voilà, les masques arrivent. Et on ne distribue pas 16 000 masques comme ça, ça se prépare. Nos agents municipaux, c'est pas, on n'appuie pas, il n'y a pas de fée. Hein, il n'y a pas de baguette magique. Les 16 000 masques, ils ne se distribuent pas comme ça. Et au bout d'une semaine, les masques de la région commençaient à être distribués.
C'est fou.
Une semaine. Non. Ne dites pas ça devant
c'est
nos agents,
fou,
vraiment.
Vous savez très bien.
Non. Non. C'est pas faux du tout.
De prendre les agents
non.
Comme ça.
Le 28 mai, ils ont commencé à être distribués. On les a eus une semaine avant.
Ouais,
une semaine avant. Le jeudi 28 mai, les masques de la région commençaient à être distribués. Et comme ceux de la ville, évidemment, on ne distribue pas 32 000 masques comme ça. Comme ça. Donc, on a fait le maximum pour tout. Alors, je comprends qu'ils ne veulent pas nous applaudir, mais au moins, par respect, je pense que là aussi, nos agents ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur.
Anne-Sophie, plutôt.
Monsieur Petit, hiérarchiquement, en fait, c'est qui donne les ordres à la mairie? C'est bien vous? C'est pas les agents là, que je critique.
Oui.
C'est les ordres que vous leur donnez et qu'ils exécutent. Donc c'est pas du tout les agents que je remets en question. C'est bien la hiérarchie qui est en haut, enfin qui leur donne des directives. Donc ne dites pas qu'on critique les agents. Au contraire, on les félicite parce que les pauvres, de la façon dont ça a été géré. Et je tiens à rajouter quand même que les masques de la région sont déjà arrivés emballés. Donc je comprends pas l'intérêt d'aller les mettre encore dans une enveloppe avec vos masques. Je vois pas du tout l'intérêt à part faire du travail aux agents en plus.
Oui, c'est un peu une même remarque. Hein. Je voulais quand même faire remarquer que j'ai commencé mon allocution en remerciant aussi les agents pour leur travail. Donc, Monsieur Petit, cette espèce de diatribe, de victimisation qui est votre habitude. De toute façon, je pense que voilà, tout le monde a bien compris. Puis, ce que je veux que vous sachiez bien aussi, c'est que vous êtes le maire, certes, mais vous savez, moi et d'autres élus hein, de toutes les équipes, on a des contacts très réguliers avec les agents municipaux. Personne n'est venu me voir pour me dire, oh là là, Julien, je dors plus. Alors, je ne sais pas si vous avez un très bon sommeil, mais en tout cas, je peux vous dire que vos agents, ils se plaignent pas de ça, donc arrêtez de parler en leur nom comme ça. Vous êtes pas là pour parler à leur place. Et de ce point de vue-là, moi, je les félicite d'avoir tenu bon. Quant à la tête, là-haut, il y a des ordres et des contre-ordres. J'apprends là ce soir qu'on fait faire le double travail, tout ça, parce qu'il fallait un petit peu changer certaines choses dans un envoi par rapport à des lettres. Donc on fait tout défaire pour tout refaire. Enfin voilà, c'est ça que les agents, je pense que c'est plutôt ça qui les empêche de dormir et pas les remarques que j'ai pu faire à votre endroit, encore une fois, et pas du tout au personnel municipal qui a essayé de surnager comme ils ont pu de cette crise. Et ça, là-dessus, on peut que leur tirer un grand coup de chapeau, quoi, ça c'est sûr.
Avant qu'on passe qu'on aille dans le vif, Anne-Sophie Puteau, peut-être un dernier mot.
Une dernière chose sur les agents, moi, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur quand même. C'est quand on voit des personnes qui sont baladées pendant des années et des années, allant de contrat précaire en contrat précaire, qui ne sont pas titularisées pendant 8, 9 ans. Et là, qui étaient en première ligne, parce qu'ils ont été mutés dans d'autres services au niveau du Covid, et aujourd'hui, leurs contrats ne sont pas renouvelés. On les a remerciés. Et vous osez me parler des agents, Monsieur Petit.
Marc Petit.
Oui, et les agents me connaissent. Les agents savent d'ailleurs, quand je prends un engagement, je le respecte, comme tous les collègues élus. Oui. Et d'ailleurs, j'ai coupé personne, merci, on a, au cours de ces dernières années, déprécarisé, vous ne le dites pas, déprécarisé fortement. Depuis plusieurs années, dès qu'on l'a fait, et notamment à la fois mon collègue au niveau des ressources humaines, qui était à l'écoute de tout le monde, comme au niveau des agents du service ressources humaines. C'est ce que nous avons fait, déprécariser, titulariser au maximum. Et quand on peut, on le fait à chaque fois.
Et pourtant, il y en a qui ont été remerciés à la suite du Covid. Et ça faisait 9 ans qu'ils étaient là, Monsieur Petit.
Mais excusez-moi.
C'est une position politique qui vous déplaît.
Oh, pas du tout. Mais là, vraiment, là, c'est comme l'histoire des masques. Mais on est dans le délire. On est dans le délire. Et merci de me donner le nom de la personne, parce que je ne m'occupe pas du recrutement des CDD. Évidemment, on est une équipe, une belle équipe, avec des compétences. Et on a un adjoint qui s'en occupe de manière, je dirais, rigoureuse, honnête, compétente, avec l'ensemble du service ressources humaines. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à croire. Donc merci de me transmettre le nom, prénom de la personne. Et il y a forcément une raison. Et en aucun cas, on a remercié les personnes après ce qu'elles ont fait. Bien au contraire. Bien au contraire. En aucun cas.
Bien, si vous voulez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, après l'histoire de la crise sanitaire, donc de cette campagne pour le second tour. Hein. C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu 3 mois entre les deux tours, du coup. D'habitude, c'est une seule semaine. Vous allez à votre tour nous présenter votre liste. Anne-Sophie Puteau, peut-être, vous allez vous présenter notre liste. Enfin, nous présenter votre liste, plutôt. Vous maintenez donc pour ce second tour. Si la gauche perd, on va peut-être d'ailleurs vous en faire supporter la responsabilité.
Non, puisqu'aujourd'hui, il y a une seule liste de gauche à Firminy, et c'est la liste de l'élan citoyen, puisque c'est la liste qui est soutenue par tous les partis politiques de gauche. La liste de M. Petit est sans étiquette, ce n'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, si nous perdons, oui, la gauche aura perdu.
Marc Petit, donc. Alors, comment vous l'avez composé, votre liste, puisqu'il y a certains de vos élus qui étaient partis avec Christian Bourbon, donc au premier tour.
Nous, notre liste, c'est une liste, évidemment tout le monde le sait, de gauche, avec des démocrates et de nombreux acteurs de la vie locale, de responsables de multiples associations. D'ailleurs, on a beaucoup de soutien et on a de la chance d'ailleurs d'avoir une ville autant associative. Et d'ailleurs, on aura et on a pour le deuxième tour de nombreux militants de gauche, que ce soit communistes, socialistes, radicales de gauche, qui bien évidemment et qui parfois ont soutenu l'élan citoyen au premier tour, vont voter et appellent à voter pour notre liste, parce qu'au deuxième tour, n'y a plus de débat. Soit c'est la liste conduite par le représentant des Républicains, soit c'est notre liste. Voilà. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, la seule liste qui peut parvenir à poursuivre la politique que nous avons menée et soutenue par la gauche, c'est la nôtre.
Julien Lua, vous, comment donc c'est Union pour Firmini, vous êtes dans quel état d'esprit avant ce second tour? Votre liste a-t-elle évolué par rapport au 15 mars dernier? Donc vous, c'est la liste, selon Marc Petit, du Parti des Républicains.
Ouais, c'est la liste des Républicains. Ça me fait doucement rigoler, parce que j'ai jamais entendu M. Petit faire appel aux valeurs de gauche en 6 ans, et maintenant qu'il se sent en grave danger, ça y est, il se rappelle qu'il est un peu de gauche. Excusez-moi, M. Petit, mais quelqu'un qui se dit de gauche, qui vote favorablement à la 45... Quand tous les partis de gauche ont voté défavorablement à la 45, Monsieur Petit a voté favorablement. Enfin, quand je dis favorablement, il a le vote à géométrie variable, parce que en fonction de l'assemblée dans laquelle il siège, des fois il est pour, des fois il s'abstient. Enfin, c'est un peu en fonction des intérêts qu'il a à droite à gauche. Donc d'ailleurs, à droite à gauche, c'est assez marrant comme expression. Il a voté les remontées de compétences à Saint-Étienne Métropole contre les propres élus communistes de son conseil municipal quand même. Donc ça, c'est un sacré élu de gauche. Et puis je rappellerai aussi cette alliance honteuse avec le Front National. Monsieur Petit a fait valider son budget grâce à la voix du Front National, avec qui il s'est entendu. Enfin, je veux dire, quand vous auriez vu ce conseil municipal, on aurait dit deux lapins dans des phares, avec les yeux exorbités, en train de se faire prendre sur le fait, avec son ami Monsieur Valour. Donc voilà, donc un élu de gauche qui va s'associer avec le Front National, bah, excusez-moi la gauche. Et puis j'ai quand même un dernier exemple, c'est l'état d'abandon honteux du parc OPH. Moi, quand je parle ça à un élu de gauche, je me dis, tiens, c'est quoi les valeurs de la gauche? Eh bien, aider les plus fragiles, aider les plus démunis. Et quand on voit dans quel état a été mis ce parc OPH, alors effectivement, on a eu ce beau projet de la corniche qui n'est pas désagréable en soi, même si vous devriez y faire un petit tour en ce moment, parce que c'est en train de devenir n'importe quoi là-haut. Mais entre parenthèses. Mais voilà, quand on voit dans quel état le parc OPH a été abandonné, mais quand je vais au Grand H, mais c'est hallucinant ce qui s'y passe. Quand je vais autour de l'AIA, c'est hallucinant ce qui s'y passe. Et on me dit que M. Petit est un élu de gauche qui se préoccupe des plus démunis. Mais ça me fait doucement rigoler. Moi, j'observe simplement et naturellement qu'évidemment, l'électorat de gauche, pour moi, il n'est pas du tout représenté par Marc Petit, qui est une espèce d'élu opportuniste qui va un peu au gré de ses petits intérêts. Il n'est pas du tout représenté par lui. Ça, c'est certain pour moi.
Comment les composer, si ce n'est pas celle des Républicains?
Donc effectivement, moi je suis un homme de droite, hein, je n'ai pas peur de le dire, et je n'ai surtout pas honte à avoir. Je crois au travail, je crois en la responsabilité personnelle, je crois en l'engagement, je crois en l'autorité, et ça, et puis au respect de certaines valeurs aussi, il ne faut pas les oublier, qui ont fondé un peu notre démocratie depuis l'après-guerre, donc notamment. Donc ça fait de moi un homme de gauche, mais... C'est un homme de droite, pardon, mais c'est totalement inopérant sur l'échelle locale, sur l'échelle municipale. Je trouve que ces vieux clivages, ils sont là juste parce que voilà, ça permet à Marc Petit d'essayer de sauver les meubles au milieu et de se faire passer pour cette entité de gauche qu'il est plus depuis bien longtemps. Mais en plus, à l'échelle locale, je trouve qu'on doit trouver des solutions aux urgences. C'est pas tant les partis politiques ou la politique qui va répondre aux difficultés de la ville. C'est des solutions concrètes, et ces solutions, elles sont de droite, elles sont de gauche, elles sont du centre. Et moi, je vais là où sont les bonnes idées. Et d'ailleurs, dans mon équipe, il y a des gens de tous bords. Je pense que des gens encartés, alors j'ai pas fait des statistiques, mais on doit être 6 ou 7, dont le tête de liste, certes, mais on doit être pas plus de 6 ou 7. Et le reste des gens, c'est des gens issus de la société civile qui ont des idées fortes. Regardez ce qui s'exprime dans mon projet, puisque, bon, alors on peut parler des gens, mais le projet, ça aide aussi à placer un parti, un projet, un programme. Ça aide à essayer d'établir une identité politique du groupe qui se présente. Et quand je vois les idées qui sont développées chez moi par des gens de mon équipe sur le développement durable, sur le lien social, qui sont peut-être plus des valeurs de gauche, on peut dire. Eh ben, je me dis que voilà une
on
équipe.
On y viendra en détail tout à l'heure.
Voilà, mais voilà une équipe projet. De grande diversité et qui va là où sont les sujets importants, sans soucier trop des équilibres de partis politiques qui, pour moi, sont totalement inopérants à l'échelle locale.
Marc Petit, je sais pas, peut-être vous voulez réagir, notamment sur l'affaire, avec Monsieur Valour. Effectivement, hein, il y a eu plusieurs fois des reproches qui vous ont été faits. Là, le dernier coup, il a voté le budget. Qui est adopté donc grâce à lui. Vous avez quoi à répondre par rapport à ça?
Ce que j'ai à répondre, bien évidemment, tout le monde le sait, il n'y a aucun lien avec le représentant des Patriotes. Tout le monde le sait aussi, c'est que ce budget, il avait été bâti avec tous les membres de l'équipe municipale et que certains sont partis avec En Marche sur la liste de M. Bourbon. et que partant avec En Marche, en étant passé parfois du PC, Génération Écologie, PS et En Marche, quel parcours ? Eh bien, sans nous prévenir, alors qu'on a bâti ensemble le projet, alors qu'ils ont travaillé avec leur chef de service sur des projets, au dernier moment, vote contre. Et donc après, il y a eu ce vote au niveau du conseil municipal. Mais il y a eu, bien évidemment, des élus qui l'ont toujours voté et qui, parce qu'ils partaient avec En Marche, ont décidé de voter contre sans qu'on soit au courant.
Et, mais pourquoi, à la limite, vouloir éparpiller leur délégation, ces élus-là ? Vous auriez pu, hein, ça aurait pu
tout à fait.
Enfin, moi, ça m'aurait même paru logique, quoi.
Tout à fait, j'aurais pu. C'est pas ma conception des choses. Je pense que beaucoup ont été choqués. D'ailleurs, certains qui votent contre, qui après veulent continuer à défendre des projets pour lesquels ils ont voté contre, enfin, c'est ahurissant. Ahurissant. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à l'OPH, quand on est arrivé en 2008 au niveau de l'OPH, il était exsangue. Il y a des représentants nationaux du gouvernement, à la fois du logement et des finances, qui sont descendus. Et suite à la gestion de M. Cinieri et dont M. Loyer est l'attaché parlementaire, c'était une gestion catastrophique. Où ils m'ont évoqué que l'OPH financièrement était exsangue. Je ne les croyais pas. Et il me disait, M. Petit, vous n'arriverez pas seul avec la ville à permettre à ce que l'OPH retrouve une situation financière stable, uniquement stable. Et malheureusement, au bout de quelques mois, je me suis aperçu qu'ils avaient raison. Et il a fallu, durant un bon nombre d'années, redresser, parce que c'est facile de faire de belles promesses qui a été fait avant pour être élu. C'est très facile de déconstruire. Très, très facile. En quelques années, on s'est retrouvé avec un OPH financier dans une situation financière exsangue, exsangue. Et donc, il a fallu que la ville de Firminy apporte des millions d'euros. Ça contraint aussi les locataires à avoir des augmentations de loyer à cause de cette gestion catastrophique. Et ce qu'on a réussi, c'est à retrouver une situation stable. Par contre, oui, il y a besoin, et on a réhabilité quelques opérations, comme le boulevard de la Corniche, tout à fait, qui est une belle opération, parce qu'on a obtenu beaucoup de financements, ce qui nous caractérise. Sans ces financements, on n'aurait pas pu le faire, parce qu'à l'époque aussi, bah, ça faisait durant des années, qu'au niveau de ce bâtiment, c'était vide. Donc on a réussi à ce que ce bâtiment vide, parfois muré, eh ben, puisse lui donner une nouvelle vie, le transformer. Et là, aujourd'hui, j'ai pu obtenir, bah, notamment, des, pour vous dire, il y a plus de 800 logements dont on souhaite faire des gros travaux de réhabilitation, notamment thermique, les mettre aussi aux normes, parce qu'on peut aujourd'hui, les situations financières de l'OPH, avec la politique aussi de Macron, nous met en difficulté. Et c'est un plan de 40 millions d'euros, rien que pour les travaux de réhabilitation. La CGLS, on est en discussion pour des millions d'euros pour l'OPH de Firminy. Et la bonne nouvelle, Saint-Étienne Métropole, et j'ai participé encore dernièrement à des rencontres avec le vice-président, avec l'ensemble des présidents de DOPH, c'est des millions d'euros aussi qui vont être alloués. Voilà. Mais c'est très facile de mettre un OPH ou même une ville dans une situation financière très difficile, de déconstruire complètement. Par contre, pour construire, je peux vous dire, ça prend du temps.
Anne-Sophie Pudot, vous voulez rajouter quelque
chose ? Oui, je voudrais un peu compléter ce que dit M. Petit et M. Louya. Vous dites que ce n'est pas votre conception des choses de retirer des délégations à des élus. Je tiens à rappeler quand même, M. Petit, que lorsque des élus communistes ont voulu voter contre la fermeture d'une école, vous avez menacé ces élus de leur retirer leur délégation pour qu'ils votent comme vous. C'est ça votre conception à vous de la démocratie, M. Petit. Au niveau de l'OPH, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes. Le principal problème qui nous est ressorti au niveau de la population, c'est qu'il n'y a pas de parcours du locataire à Firminy. C'est-à-dire que M. Petit a voulu repeupler la ville. Donc dans les nouveaux logements, bah oui, mais sauf que c'est des gens qui sont venus de l'extérieur. Et des gens de Firminy qui habitent au Grand H, à l'Aïeux, etc., puis qui veulent un peu bouger, et bah apparemment il n'y a pas de vrai parcours du locataire. C'est ce qui en est ressorti. Au niveau des votes à droite, effectivement, je vais compléter un peu ce que dit M. Loa, c'est vrai que M. Petit a voté comme d'un seul homme avec la droite, entre autres sur la décharge aussi, l'extension de durée de la décharge de Roche-la-Molière. Je rappelle également, M. Petit...
Vous parlez à Métropole, du coup ?
Oui, pardon, le vote à Métropole. Je rappelle aussi, M. Petit, que là, vous dites qu'il y a des élus qui sont partis avec En Marche et tout. Mais en 2017, aux législatives, vous avez bien appelé à voter M. Coffer, M. Petit. Oui, vous avez appelé à voter En Marche. Et après, vous allez manifester auprès de la CGT dans des cortèges. Vous les mettez en place, vous les aidez à se mettre en place, et puis après, vous allez manifester. Mais il est où le bon sens, là, M. Petit, voyons ? Et dites-moi pas qu'il y a l'extrême droite, là, c'était contre la droite. Donc vous aviez le choix entre une droite et une droite. Et vous avez choisi une des deux droites. Vous avez fait ce choix, sans concertation avec personne. Et puis la deuxième chose sur les valeurs, Monsieur Louya parlait un peu des valeurs de droite, Monsieur Petit dit qu'il est de gauche. Bon, je veux bien, sauf que dans les valeurs de gauche, Monsieur Petit, vous aurez peut-être oublié deux choses importantes. C'est qu'il y a l'éthique et le féminisme. Et pour ces deux-là, excusez-moi, vous repasserez.
Marc Petit ?
Oui, plusieurs choses. Tout d'abord sur l'école des noyés. Ce que j'ai évoqué, de manière générale, c'est qu'on ne prend pas ce que demandaient notamment certains membres du PC.
Sur
l'école des noyés.
Sur le budget.
C'est de suivre l'avis des militants du PCF. C'est pas... Quand on est dans une équipe municipale, ce que j'évoquais, on en parle ensemble. Voilà. Et qu'après, tout à fait, on avait évoqué ensemble, on avait pris des décisions ensemble en 2014. Qu'on ne pouvait pas voter contre une décision sans qu'on en ait parlé ensemble, sans qu'on essaye de trouver une solution consensuelle. J'ai juste rappelé les engagements qu'on avait pris. Et d'ailleurs, on le voit, même quand des personnes ont voté contre le budget, j'ai parti à délégation et je connais un bon nombre de maires qui parfois ont retiré des délégations pour beaucoup moins, beaucoup moins. Sur le parcours locataire, excusez-moi Madame Puteau, c'est faux. Il y a même d'ailleurs parlé d'exemple du grand âge. Il y a des personnes d'ailleurs, au moins une personne du grand âge, par exemple, qui était dans les maisons groupées au niveau Boulevard de la Corniche. C'est faux. Par contre, vous ne le savez peut-être pas aussi, il y a une commission de concertation et il y a une locative où il n'y a pas que les représentants de l'OPH et de la ville, il y a les représentants de la CAF, il y a de multiples représentants, des locataires, etc. Et par exemple, les représentants de la CAF, il est hors de question, notamment comme ceux de l'État, quand l'État apporte des financements, ce n'est pas réservé qu'aux APLOU, ce n'est pas possible. Comme pour ceux du 1% logement. Par rapport à M. Coffert, alors je sais qu'il y a certains militants du PCF, Firmini, pas beaucoup d'ailleurs, qui quand même Pierre-Laurent, numéro 1 du PC au niveau national, à l'époque, appelait à faire barrage à Le Pen et donc à voter pour Macron, avait dit « Oh là là, mais c'est un mauvais communiste, tout ça ». Voilà, on l'avait reproché dans ces cas-là. Excusez-moi, au deuxième tour, face à M. Coffert, pour moi, ce n'était pas un élu de droite républicain comme les autres, quand c'est avec M. Cinieri qui est prêt à toutes les méthodes, vraiment, sans aucune limite. Donc pour moi, non, ce n'est pas du tout une droite républicaine.
Oui, Julien, oui, peut-être là, vous allez...
Je vais un peu réagir. Parce que, monsieur Petit, depuis tout à l'heure, les gens savent bien, les gens se sont pris que, ils parlent comme ça, ils disent des choses qui sont invérifiables. Maintenant, il se met à faire des attaques personnelles contre monsieur Cinieri. Voilà, j'observe quand même. Alors, sur les premiers éléments, sur l'OPH qui était au bord de la rupture, j'observe que l'OPH a continué à exister les années d'après, qu'il y a eu des investissements quasi chaque année. Voilà, et pour finir sur des investissements beaucoup plus importants. Si l'OPH avait été si en difficulté financière, je suppose que tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, de toute façon, je me rappelle très bien avoir lu un rapport de la Cour des comptes qui avait fallu que faire intervenir d'ailleurs un préfet, parce que ce discours par rapport à l'OPH qui lui aurait été laissé dans une situation catastrophique, c'est pas la première fois que M. Petit le tient. Et donc, à l'époque, je crois qu'il s'appelait De Charrière, le préfet de l'époque. Il s'était fendu d'un courrier que j'avais lu et que j'ai toujours quelque part dans mes dossiers, où il rappelait à M. Petit que l'OPH était dans une situation totalement correcte, hein, c'était pas non plus la panacée, ça je l'entends bien, mais qu'il était dans un état qui avait aucun danger de rupture ou de banqueroute qui pesait sur l'OPH, donc tout ça c'est bien sûr des choses, et puis voilà, il dit des choses comme ça qui sont invérifiables, qui voilà, et sans l'ombre d'un doute, donc voilà, ça c'est la méthode Petit depuis toujours, on la connaît par cœur. En plus, tout ça, monsieur Cinieri, c'était 2008 quoi, les derniers mandats, on est en 2020. Donc à un moment donné, il faut peut-être un peu changer de logiciel et puis arrêter ce discours que d'ailleurs qui n'apporte rien sur l'avancée du débat. Donc voilà, de ce point de vue-là. Ensuite, sur l'aspect politique, dire quand même que Monsieur Cinieri, c'est le FN. Quand vous-même vous êtes associé avec le FN pour faire voter votre budget, enfin Monsieur Petit, vous moquez n'importe du quoi. Monde. Vous pensez que les n'importe auditeurs quoi. Ils comprennent pas ce qui se passe, ce que vous dites, ce que vous faites.
Sans parler de la vidéo TL7. Oui. Ils sortent de votre bureau.
Ah oui, oui.
Mais monsieur Vallon sort de votre bureau.
Ça j'aimerais en dire deux mots quand même, parce que voilà, monsieur Petit,
vous
sort du.
C'est n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi. Il y a des vidéos de TL7 qui le
mais
prouvent.
C'est pas mon bureau.
Vous pouvez.
C'est comme vous, monsieur Louya, vous êtes au conseil municipal, dans la mairie, vous sortez d'un bureau, on va vous filmer.
Et on va dire
que vous êtes main dans la main avec moi. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez votre délire.
Vous pouvez m'interrompre.
On a compris votre volonté.
Si vous me laissez développer mon idée, je vais vous expliquer. Et puis je vais l'expliquer aux auditeurs, parce que vous, voilà, par la désinformation.
A priori, c'était le bureau du directeur de cabinet.
Oui, non, mais totalement, c'était pas le bureau de M. Petit, ça c'est clair et certain, mais c'est clair et net. Mais de toute façon, la question, elle se pose pas, puisque la conférence de presse qu'organise M. Petit pour essayer d'expliquer qu'il est innocent malgré de condamnations en justice sur une agression sexuelle, quand même, faut rappeler quand même ça, parce que là, on a touché quand même au très très grave-le avec M. Petit. Hein. Et donc, du coup, il organise une conférence de presse à 19h, 20h le soir, enfin, la mairie est fermée depuis longtemps. Et on voit M. Valour sur une vidéo, on le voit très clairement, hein, sortir. Alors, est-ce que c'est son bureau? Est-ce que c'est le bureau d'à côté? Ou est-ce que c'est le bureau du directeur? Ou de je ne sais pas quel adjoint? Ça, je ne sais pas. Mais on les voit tous sortir de ce même bureau. Donc, on reconnaît toute sa garde rapprochée. Alors, je ne vais pas citer des noms, je ne voudrais pas les mettre en difficulté. Mais on sait très bien qui c'est, là, les 3-4 élus qui vont rester encore un peu fidèles. Et on les voit tous sortir de ce bureau, style on sort avec nos petites pochettes sous le bras, on vient de sortir de réunion, on a mis en place les éléments de langage pour essayer de sauver ce qu'on va encore pouvoir sauver. Et on voit M. Valour, mais moi quand je l'ai vu, je suis tombé à la renverse, et on voit M. Valour sortir de ce bureau avec tout le monde, et en plus se cacher à la vue de la caméra. C'est-à-dire que quand M. Valour arrive dans ce couloir de la mairie et voit la caméra de TL7 face à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans le bureau duquel il vient de sortir pour éviter d'être vu. Alors, enfin, quelqu'un qui est là par hasard parce qu'il a vu de la lumière, il n'a aucune raison de se cacher.
Alors, pour
quelqu'un a dû lui ouvrir la porte de la mairie aussi à un moment donné.
Pour être très, très juste avec cette histoire de Jean-Paul
Valour.
Oui,
je crois que vous étiez sur place d'ailleurs,
moi,
monsieur Boré. Oui.
A priori, donc, il s'était trompé. Il pensait que c'était un rencontre public.
Oui, mais disons que sur la fois où on les retrouve un peu ensemble à la Bourse du Travail en train de fêter la victoire de M. Petit, là aussi, il s'était trompé. C'est exact. Mais c'est la réalité, M. Petit. Tous les journalistes qui étaient présents dans la Bourse du Travail après les élections de 2014 l'ont vu. Donc pourquoi le nier? C'est fou quand même de nier l'évidence. Et là, M. Valour, qui s'en était pas caché d'ailleurs de sa présence à vos côtés ce soir-là, il nous a expliqué qu'il savait pas que c'était, qu'il avait vu de la lumière dans la Bourse du Travail, qui s'est dit tiens, l'ambiance est bonne, on va rentrer, peut-être faire un peu la chouille avec les gens qui sont là. Mais enfin bon, voilà, je veux dire, c'est quand même des genres d'explications pour donner crédit à ça. Il faut vraiment être très très crédule, quoi.
Marc Potier, on va vous laisser répondre.
Oui, brièvement, je trouve que certains sont prêts à tout.
Ah, il vous reste plus que ça, quoi.
La victimisation. Certains sont prêts à tout, allez, à salir, et même des collègues élus. Osez dire, certains de ces collègues élus, dont papa a fait parfois de la résistance contre le fracisme, et vous êtes écœurant. Excusez-moi.
Ça fait beaucoup, monsieur Petit.
Écœurant. En aucun cas, ses collègues étaient en réunion avec lui. En aucun cas. Vous inventez, vous salissez les personnes. Vraiment, c'est écœurant. Ça montre que certains, vraiment, sont prêts à tout pour prendre un poste.
Je suis prêt à tout, mais pas à m'allier avec le Front National.
C'est extrêmement... Ah, voilà, prêt à tout, à tout.
Monsieur Petit, je vous ai déjà dit que j'étais pas là pour une place. J'étais là pour défendre les valeurs de gauche affirmées, ce que vous ne faites plus depuis longtemps.
Ce que je fais depuis très longtemps, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait un tel score, parce que la gauche, elle fait pas moins de 16% affirmées, ça saurait. Hein. Une gauche qui fait moins de 16%, elle est quasi inexistante.
Parce que 33% pour un maire sortant, vous trouvez que c'est bien?
Ah, en étant soutenu par aucun parti politique, oui. Parce que la dernière
vous
fois.
Vous avez vu les scores des autres maires sortants
sur la dernière fois, en étant soutenu par 5 partis politiques de gauche au départemental, je faisais le même score. Donc le moins qu'on puisse dire, avec 34%.
Regardez
c'est
pas
un bon
les
score.
Pourcentages, regardez en nombre de voix. Vous perdez en nombre de voix, monsieur Petit.
Évidemment, on passe de 65% à moins de 40%. Et vous le savez très bien.
Déjà entre 2008 et 2014,
vous
perdez
très bien,
des voix.
C'est important, et d'ailleurs je le dis, que les électeurs aillent voter. On a eu une chute de la participation inimaginable. Pour qu'on ne se retrouve pas durant six ans, avec une gestion catastrophique. Attention.
Vous avez d'ailleurs dit, je crois, chez nos confrères du Progrès, que s'il n'y avait pas eu autant d'abstention, vous auriez été largement en tête.
Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que ce qui nous caractérise, nous, on n'a pas de militants de partis politiques. On vient avec beaucoup de soutien au niveau de la société civile, avec beaucoup d'acteurs de la vie locale, marqués à gauche, de démocrates aussi, voilà, qui sont attachés d'abord avant tout à leur ville, qu'ils aiment leur ville. On se bat pour notre ville, et les Aplous le savent. Nous nous battons à 100% pour notre commune dans tous les domaines. On a réussi à mettre en place de nombreuses choses. Attention, ne cassons pas tout. Parce que je peux vous dire, c'est très facile à casser. Par contre, pour construire, c'est plus long.
C'est vous qui avez tout cassé, M. Petit. Si vous étiez mis en retrait, rien ne serait cassé aujourd'hui.
Ah bah oui, on aurait eu M. Louya qui serait élu.
Pas du tout.
C'est peut-être ce que vous souhaitez.
Pas du tout.
Madame Puteau, bah bien évidemment, tout le monde le sait. C'est pas entre M. Louya et notre liste. Tout le monde le sait, affirmé, sauf vous.
Non, pas du tout. Vous savez très bien que votre mise en retrait aurait permis une grande alliance de la gauche. Mais vous avez voulu passer...
Pour favoriser
contre...
l'élection de M. Louya, c'est peut-être
pas
votre
du
souhait.
Tout. Il n'y a pas que vous qui pouvez gérer la ville, M. Petit.
Bien évidemment. Mais aujourd'hui, regardez quand il y a deux listes de gauche qui arrivent. Il y en a une qui est largement en tête.
Il n'y a qu'une liste de gauche affirmée, je le dis et je le répète.
L'autre derrière, eh ben voilà, je dirais que, excusez-moi l'expression, la messe est dite. Voilà, donc, d'ailleurs, il y a des personnalités marqués politiquement dans des partis politiques qui vont faire un appel pour dire voilà, il faut qu'il y ait un désistement républicain. Vous aurez dû faire le désistement républicain. Vous aurez dû soit vous allier ou soit vous désister. C'est ça la logique. Ou sinon, vous allez
très bien que la négociation c'était sinon, en cas de si vous vous retiriez, nous faisions une fusion. Vous avez refusé de vous retirer, monsieur Petit. On ne part pas avec un maire condamné pour agression sexuelle.
On est 33 d'ailleurs, des membres de votre liste et plusieurs qui ont demandé, et j'ai des mails, qui ont demandé à ce que vous ne maintenez pas votre liste. Nous, je peux vous dire, la question s'est jamais posée. Parce qu'au deuxième tour, ce qui est posé, c'est est-ce que c'est l'équipe de M. Louya ou la nôtre. Voilà, il n'y a pas de débat après. Donc, bien évidemment, moi, j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une forte mobilisation. On a construit plein de choses, on parlait pas au niveau de gauche. Regardons au niveau écologie. Tout ce que nous avons fait.
On va y venir. Justement, moi, je voulais venir. On va redonner la parole à Anne-Sophie, plutôt, qui, je crois, pour l'instant, est un peu en retard. Moi, j'ai choisi quelques thèmes. Hein, qui, on va rentrer dans le vif un peu de votre projet. Moi, l'idée, c'est de faire du projet contre projet, c'est-à-dire sur différents sujets, comment vous voyez la gestion de la ville de Firminy. Justement, cadre de vie, écologie, développement durable et environnement. Quels sont les projets dans ce domaine ? On commence par Anne-Sophie, plutôt.
Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, vraiment, dans notre projet, il y a vraiment trois grands axes sur l'écologie sur lesquels on a travaillé. Tout d'abord, le développement des pistes cyclables. Aussi bien pour se déplacer, pour aller au travail, par exemple, ou faire ses courses, mais aussi dans les loisirs, puisqu'on veut élargir l'offre touristique sur Firminy, c'est-à-dire soutenir l'association qui a pour projet une voie verte entre Londen et la Haute-Loire. Le projet Jeff Isley, il est finançable. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va appuyer si nous sommes élus. Ensuite, dans la réduction des déchets. Nous, on n'est pas pour voter pour l'extension d'une décharge. Le mieux, c'est peut-être d'inciter la population à réduire ses déchets. Donc, nous voulons lancer des défis famille, entreprise, comme c'est le cas dans la ville de Roubaix, où c'est sous forme, c'est très ludique, en fait. C'est en partenariat, ça peut être avec des associations, etc. Et donc, on propose à des familles des solutions et à des entreprises. Et comme c'est sous forme de défi, c'est quelque chose voilà, de ludique et de sympathique et ça crée, ça crée une envie peut-être chez d'autres familles qui, l'année d'après, une fois que le bilan est fait et qu'on a communiqué sur le bilan, ça peut donner envie à d'autres familles de s'y mettre. Donc la réduction des gaz à effet de serre avec les pistes cyclables, la réduction des déchets et l'accès à une alimentation saine et de proximité pour tous avec les incroyables comestibles. C'est-à-dire que sur toutes les zones vertes de Firminy, et il y en a, comme dans le quartier de Firminy Vert par exemple, on pourrait planter des végétaux comestibles, arbres fruitiers, légumes, etc. Donc dans les conseils de quartier, nous élirons des éco-délégués qui impulseront ce type de projet et nous créerons du lien intergénérationnel à travers ce type de projet.
Julien Lua, sur la partie développement local, environnement, la voie verte, je crois qu'il y a ce projet aussi chez vous, non ?
Oui, il me semble. Oui, il y a convergence à ce niveau-là. Il faut dire que je pense que Madame Puteau a eu contact, peut-être Monsieur Petit aussi d'ailleurs, avec la même association qui s'appelle l'association O2, qui a piloté un peu ce projet de voie verte et qui nous l'a présenté. Et c'est vrai que face à leurs arguments, face à aussi le sérieux de leur démarche et aussi face à notre constat sur l'évolution de cette société et la nécessité de préserver notre planète, et bien c'est vrai que c'est un projet sur lequel on veut aller. Effectivement, alors nous sur la question du développement durable, on croit beaucoup en une politique d'urbanisme novatrice, c'est-à-dire qu'en changeant notre ville, en la changeant concrètement, visuellement, en agissant vraiment sur l'urbanisme, on va pouvoir faire entrer les préceptes de développement durable dans l'esprit de la population, parce que ça va leur donner à réfléchir en direct. Ils auront des exemples concrets de réalisation sur l'urbanisme, et donc on veut réduire les effets d'îlots de chaleur, donc on va planter aussi beaucoup avec une ville plus verte, plus verdoyante. On veut aussi jouer sur la biodiversité, donc on va essayer de changer un peu les essences de fleurs sur les massifs fleuris de la commune. Et puis bon, une ville fleurie, c'est aussi plus agréable. Sur les questions de développement durable aussi, on veut agir sur les réductions de dépenses énergétiques. Donc je pense que sur les bâtiments publics, il y a aussi encore à faire avec un investissement LED sur tout le parcours d'éclairage public, mais à la fois sur les bâtiments publics, je pense qu'on peut aller sur un objectif. On veut essayer de se fixer 10% de réduction de la facture énergétique pour Firminy, pour les bâtiments publics de la commune. Donc avec, bien sûr, on va demander là un effort aussi d'attention, de vigilance à ce niveau-là. Et puis je pense qu'il faut changer notre commune. Si on veut, j'entends ce que dit Madame Puteau sur les modes de déplacement doux, si on veut laisser de la place au vélo, aux piétons, si on veut un peu changer cette image de Firminy, il va falloir travailler en avant-première sur l'urbanisme. féminisme, parce que on est une petite ville en superficie, on a peu de place pour essayer d'imaginer de futurs développements, notamment sur ces questions environnementales. Et donc de ce point de vue-là, il va falloir d'abord jouer sur l'urbanisme, voir où est-ce que ça va être possible de faire de la piste cyclable et tout, pour quand même l'attractivité commerciale de notre commune, elle est importante, et pour l'instant la voiture a encore une place prépondérante. Donc je serai très vigilant à ces questions-là. Je dirais que changer Firmini durablement va se faire un peu dans les futures années, et il va falloir d'abord un projet d'urbanisme ambitieux qui laisse largement place aux questions de développement durable avant d'envisager des concrétisations comme une piste cyclable qu'on pourrait imaginer soit sur les artères qui longent la Grand Rue, voilà, mais qui pourrait nous permettre de faire une traversée de Firmini en vélo sans aucune difficulté, avec connexion sur les voies vertes du Chambon et sur la voie verte qu'on pourrait créer qui monte justement à Dunières par les anciennes voies de chemin de fer.
Marc Petit, sur la partie développement local environnement.
Oui, sur la question de la voie verte, là, on est tous d'accord, et tant mieux. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de financement acté. Voilà. Donc oui, sur les LED, on a fait déjà beaucoup. Beaucoup, puisqu'on a 6 quartiers au niveau de la ville, et on a déjà 5 quartiers qui sont 100% LED. Il reste le quartier du centre, où on a déjà une partie en LED, et la totalité sera en LED, normalement, d'ici septembre, octobre de cette année.
Donc c'est pour ça que tout a été rééclairé, la nuit.
Avec un faible halo lumineux, ouais. Tout à fait, et qui permet de faire plus d'économies auparavant. Donc c'est très bon pour l'environnement, et on peut parfois éclairer, mais extrêmement peu, avec 20%, et donc on fait même plus d'économies qu'auparavant. Pour vous dire, on fait à peu près 130 000 euros d'économies, alors qu'avant on en faisait 95 000. Donc c'est très bon pour l'environnement, et des villes de notre taille qui sont à 100% en LED, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été la première ville à être en transition écologique et sociale. C'est bien justement des valeurs écolo, de gauche, qu'on porte, qu'on a défendu, qu'on a mis en œuvre. Il y a d'autres projets aussi qu'on veut poursuivre, qui sont très importants. Notamment, on a un bon nombre de propriétaires privés où on a mis en place, maintenant depuis de nombreuses années, une aide, en plus des autres aides de l'État, etc., de 200 à 800 euros par propriétaire privé en fonction des travaux d'économie d'énergie qu'ils font. Voilà, parce que c'est extrêmement important. Et puis un projet novateur, exceptionnel au niveau national, c'est notre régie agricole avec la production de produits de légumes bio et qui aujourd'hui permettent, depuis notamment l'année dernière, d'alimenter à la fois les enfants dans nos cantines et puis nos résidents, nos seniors, dans nos trois foyers de personnes âgées. Notre objectif, c'est de parvenir d'ici 2020-2026 à ce que 75% des produits dans nos cantines pour nos enfants soient bio ou issus de circuits courts. Sur l'urbanisme, c'est un enjeu aussi très important. Et d'ailleurs, je suis content, ça faisait depuis plusieurs années que je me battais avec mes collègues pour qu'on puisse parvenir et signer cette convention avec tous les partenaires et de très très nombreux partenaires, que ce soit l'État, que ce soit Métropole, le département, l'ANA, etc. Et nous avons pu obtenir, je suis content, 6,6 millions d'euros d'aide, et notamment en direction de propriétaires privés et puis aussi au niveau public pour pouvoir faire des opérations d'urbanisme importantes en centre-ville, mais pas seulement. Ça concerne aussi le quartier de la Tardive, ça concerne aussi le quartier du Mas, ça concerne aussi le quartier de Fayolle.
Sur Anne-Sophie Puton.
Petite question, après, monsieur Petit, sur la voie verte, je ne l'ai pas vue au premier tour dans votre tract, dans votre programme.
Il n'y a pas de changement.
Ah bon? Non, je ne l'avais
aucun
pas
changement.
Après, ce qui est étrange quand même, c'est que les remontées que j'ai, c'est qu'en tant que conseiller départemental, le projet, vous ne l'avez pas tellement porté.
Alors,
donc le programme écolo, c'est bien de le porter en dehors des élections aussi.
Alors je le porte tout le temps, par contre voilà, polémiquer pour polémiquer, je vous le donne. C'est le deuxième, vous avez mal lu.
Non mais sur le premier
programme.
Tour, je vous parle.
C'est notre programme.
Ça y était déjà ?
Ça y était déjà, donc je vous le dis, puisque vous ne l'avez pas vu.
D'accord.
Donc deuxième engagement qu'on a pris en termes d'environnement, agir auprès des partenaires pour ouvrir une voie verte sur l'ancienne voie ferrée. Voilà,
je
donc ça y
pas,
était,
premier tour.
Pas de changement.
Et en tant que conseiller départemental,
et
pourquoi
on
n'avait pas porté le projet alors ?
Je l'ai toujours défendu. Et non, par contre, ce qu'on dit bien, c'est agir auprès des partenaires. Parce que non, c'est des sommes extrêmement importantes en jeu si on veut le réaliser. Donc je ne veux pas dire on va le faire, comme le disent certains. Non, nous on s'engage et on se bat. Et donc on se battra pour mettre en œuvre ce projet. Mais là aussi, c'est des sommes, si on va jusqu'en Haute-Loire, c'est des millions d'euros en jeu qui sont.
Cette association est déjà
devant
les partenaires, monsieur Petit.
Ça a été travaillé avec O2, c'est évoqué tout à l'heure, avec aussi vélo. Métropole a délibéré aussi dans ce cadre-là il n'y a pas longtemps. Mais voilà, il faut qu'on obtienne aussi d'autres partenaires. Il y a des discussions aussi avec ceux de la Haute-Loire, parce qu'on est limitrophe avec la Haute-Loire. Voilà, donc oui, on avait déjà ce programme. On continuera à agir dessus. Par contre, voilà, je ne vais pas faire une promesse en l'air avec mes collègues irréalistes, parce que ça aussi, c'est vraiment ce qui déplaît au niveau de la politique, que ce soit à droite ou à gauche.
Julien Lua.
Oui, il n'y a rien d'irréaliste là-dedans. Vous comprenez bien qu'on est des gens mesurés, des gens compétents, on sait où on va, et si on s'engage, c'est qu'on sait qu'il y a du répondant derrière. Quand je vois le plan vélo monté par Métropole, j'ose bien imaginer que ça va être aussi une voie de financement prioritaire sur les modes de déplacement d'eau. Donc je sais qu'il y aura des dispositifs par rapport aux voies vertes. Je vois le niveau de financement qu'ont obtenu la Via Fluvia et la Via Rhona par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, monsieur Petit, je suis quand même un peu étonné qu'en tant que maire, vous sachiez pas qu'il y a quand même des gros financements sur certaines collectivités par rapport à ces projets-là. Mais bon, voilà, je suis quand même fort étonné de ça. Après, je voudrais faire une autre remarque sur les LED. Voilà, monsieur Petit, il a tout fait, il a tout vu. J'ai bien entendu ça encore. Mais il s'avère qu'il aurait dû nous écouter. Parce que ce programme de passer en LED, c'est notre équipe qui en a parlé au conseil municipal. On lui a expliqué qu'éteindre la lumière dans une commune comme Firminy, qui a des problématiques sécuritaires importantes, c'était une folie et qu'il économiserait plus d'argent en allumant toute la nuit avec des LED. Bon, ben, malheureusement, il a rien écouté. Il a éteint la lumière et il a pris le retour de volée puisque, bon, voilà, la population s'est quand même, heureusement, s'est mobilisée puisque nous, on n'y arrivait pas, l'opposition. On a beau lui expliquer qu'éteindre la lumière à Firminy, c'était une pure folie. Bon, heureusement, quand la population a commencé à faire des pétitions, a commencé à remonter, bon, ben là, vous savez, hein, y a toujours l'esprit électoraliste qui est pas bien loin. Donc là, on est revenu en arrière. Donc ça a été encore un aller-retour. Et tout ça, c'est pas neutre financièrement pour une commune. Parce que quand on a éteint la lumière, on a changé tout un tas de caméras. Alors j'ai pas le chiffre en tête. D'ailleurs, je le connais pas vu le peu de fois où c'est réuni la commission locale de sécurité qui est censée parler de ces problèmes-là. Donc voilà. Donc il a fallu acheter des caméras infrarouges. Ces caméras, ben, maintenant qu'on rallume, je me demande bien à quoi elles servent. Enfin, tout ça, c'est quand même des allers-retours. À chaque fois qu'on a éteint la lumière, il a fallu. J'ai un peu interrogé les services. Il y avait une sorte de fiche informatique reliée par satellite et qui disait tous les soirs à telle heure le lampadaire il s'éteint. Ben, ces fiches, c'est 250 euros par fiche. Et vous comptez le nombre de lampadaires sur la commune, ça en fait quand même quelques-uns. Donc tout ça a coûté très cher à la commune en aller-retour, en erreur, pour une seule raison, c'est que monsieur Petit n'a pas voulu écouter son opposition. Il suffisait juste de se renseigner par rapport à ce qu'on vous disait, de le vérifier par rapport à des gens à qui vous aviez plus confiance, et vous l'aurez sans doute confirmé, et ça vous aurait évité une nouvelle fois cette erreur, et aujourd'hui de nous dire que vous êtes comme le chevalier blanc qui rallume la lumière partout, mais enfin, vous nous auriez écouté avant, vous ne l'auriez sans doute pas éteint.
Alors, Marc Petit, vous allez répondre. On va en profiter pour attaquer du coup le dernier thème, hein, parce que malheureusement, il y a 52 minutes qu'on est ensemble, donc ça passe très vite. Donc, il y a des thèmes que je voulais aborder qu'on ne pourra pas, malheureusement. Je voudrais quand même justement qu'on parle, qu'on dise quelques mots pour terminer sur la sécurité, donc, hein, puisqu'il y a, de la petite délinquance à Firminy, hein, faut pas fermer les yeux. Du trafic de drogue, notamment. Comment voulez-vous vous y prendre ? Marc Petit, peut-être, du coup, vous allez pouvoir répondre à Julien Lua sur ces caméras.
Sur les caméras et sur les LED. Donc, les propositions, d'où qu'elles viennent, on les écoute et on les prend en compte. Et à l'époque, quand l'UPF avait fait la proposition au niveau des LED, le prix était exorbitant. Et notre adjoint, notamment au développement durable, Jean-Manuel Moria, l'avait évoqué. On a aussi un responsable au niveau du service éclairage, notre fonctionnaire, avec toute une équipe, très compétent aussi dans chaque domaine, qui l'avait étudié.
J'ai le souvenir, moi, une réunion où il y avait je crois que c'était un ancien, justement, qui travaillait à la municipalité. Il y avait une réunion par rapport justement à l'éclairage la nuit, ou les extinctions de l'éclairage, qui disait que c'était pas possible de mettre des LED par rapport à ce qu'il y avait déjà.
Je termine. Bien évidemment que c'était possible, hein, ça avait été évoqué. Par contre, c'était le coût. À l'époque, c'était 2 à 3 fois plus élevé. Donc notre adjoint, et là je fais confiance complètement à mon collègue adjoint, comme à notre responsable du service éclairage, qui est un amoureux du service public et un passionné de tout ce qui est éclairage et très compétent. Et donc il avait étudié, bien avant que l'UPF le propose, concrètement c'était complètement, au niveau économique, irréalisable. Et donc quand on l'a fait, alors d'une part, on a même fait un référendum où la majorité des habitants s'était prononcée en faveur, et par contre beaucoup plus de villes et de collectivités se sont mises au LED. Et donc, le coût a fortement diminué. Quand le coût a fortement diminué, on a pu passer en LED, ce qui a permis de faire une économie énorme au niveau du budget de la ville. Pour répondre aux questions de sécurité, oui, comme toutes les villes, que ce soit ville urbaine ou village, et même de 300 habitants, pour avoir eu des échos encore dernièrement, on a un problème, bien évidemment. aujourd'hui, bah, parce qu'il manque une présence de policiers nationaux au niveau rural de gendarmes. Voilà. Et j'y peux rien si c'est le député de l'époque, monsieur Cinieri, qui a voté la suppression de, je ne me rappelle plus exactement, je crois, 14 400 postes de policiers et gendarmes. Voilà. On hérite encore de ça, malheureusement. Comme j'y peux rien si à l'époque, et je ne comprends pas d'ailleurs que monsieur Louya, en tant qu'attaché parlementaire, moi je ne serais pas resté, voilà. Quand le député vote autant de suppression de postes de policiers, accepte la suppression de la gendarmerie, enfin, et qu'on nous dit qu'on veut agir sur les questions de sécurité, mais on paie ces conséquences-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est obligé de se battre pour revenir au nombre de policiers qu'on avait auparavant. Et c'est une bataille colossale, voilà. Donc concrètement, suite à ça, on a créé pour la première fois d'ailleurs une police municipale. On a mis en place aussi un bon nombre de caméras. Et d'ailleurs, ces caméras ont permis dernièrement sur un secteur et au niveau du mail d'arrêter des délinquants. Certains pour trafic de drogue, d'autres pour d'autres choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu, et alors je ne connaissais pas, c'est la commissaire qui m'avait alerté, scier notamment l'EMA, parce que justement, ça nous a permis d'arrêter des délinquants. Je peux vous dire, contrairement à d'autres villes, ils ne feront jamais la loi. On a vu avec plein de villes en France, parce que beaucoup sont confrontés à ça, et il y a d'autres systèmes que je ne vais pas développer ici, et tout de suite, nous avons fait l'acquisition de nouveaux matériels, et je peux vous dire, ils ne pourront plus se permettre de faire ça. Donc oui, il faut agir. Où ils font agir, parce que c'est une toute petite minorité, et où ces actes sont insupportables, complètement insupportables. Et là aussi, moi je remercie l'ensemble des policiers nationaux pour ce qu'ils font. On s'est battu tous les maires avec le député pour essayer de retrouver un petit peu des effectifs, mais on a un retard. Il nous manque, quand on aura les 7 policiers nationaux qu'on nous assure pour début septembre, il nous en manque encore 10. Et attendez, à l'époque, on avait même un commissariat sur Rick Chambon. Aujourd'hui, il n'existe plus en tant que tel. Qu'on ne me dise pas qu'au niveau de la Ricamarie du Chambon, il n'y a pas de problème. Donc oui, il faut qu'au niveau national, il y ait un renfort important au niveau humain. Donc pour nous, ça fait partie de nos priorités, d'où le fait qu'on s'est engagé pour renforcer notre police municipale, avoir aussi un système de supervision au niveau des caméras pour pouvoir réagir plus rapidement. En tous les cas, je peux vous dire que des images ont été utilisées dernièrement et ont permis d'arrêter plusieurs délinquants et dont certains pour trafic de drogue.
Anne-Sophie Puto, sur la sécurité.
Oui, alors c'est vrai qu'au début, au niveau de la mise en place de la police municipale, des caméras, les caméras, M. Petit nous avait assuré que ça resterait de la vidéo protection. Donc on visionne les bandes en cas de problème. Et puis il nous avait juré que ça serait jamais de la vidéo verbalisation. Aujourd'hui, on en est à la vidéo verbalisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est une politique quand même très droitière que d'installer ce genre de système. Et bien, la droite surenchérit maintenant veut mettre un policier derrière chaque caméra. Ben moi, je suis désolée. C'est toucher à la vie privée. Et de filmer des gens dans la rue qui n'ont rien à se reprocher, c'est pas normal. Vos caméras, aujourd'hui, c'est un coût énorme. Elles ne servent à rien parce qu'ils vendent la drogue en dessous. Alors vous dites, Monsieur Petit, que la semaine dernière, il y a eu, ou il y a quelques temps, des dealers qui ont été arrêtés en bas du Grange. Bah écoutez, j'y suis passé cette semaine, c'est bien, il y a une équipe qui a pris le relais. Il y a une autre équipe. Et ils ont même menacé une éducatrice qui venait rendre visite à un habitant avec, avec ses enfants. Ils lui ont dit, tu passes pas, t'as rien à faire ici. Donc vous dites qu'ils ne feront pas la loi, et bien ça j'en suis pas si sûr, monsieur Petit. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? À vouloir mettre des machines à la place des humains, vous avez sacrifié 2 générations. Parce que deux mandats, ça fait 2 fois 6 ans, ça fait 2 générations. Vous avez sacrifié ces jeunes. Parce qu'au lieu de mettre des caméras, il fallait mettre des éducateurs. Et c'est là où nous on se différencie des autres candidats. C'est que la surenchère des caméras, comme vous dites, ils ont scié les poteaux, mais vous vous réjouissez. Mais c'est bon, on a des caméras qui surveillent les caméras. C'est quoi l'étape d'après? On met des caméras qui surveillent des caméras qui surveillent des caméras? Ça s'arrête quand, en fait? Donc non, nous, on se différencie à ce niveau-là parce qu'on veut vraiment faire du travail sur du long terme. On travaille avec des éducateurs, on fait de la prévention. Et ces jeunes, on les inclut dans les projets de la société, on ne les exclut plus. Et parce que c'est des incivilités au départ et après, ça glisse vers de la délinquance. Donc avant que ça devienne des délinquants, nous, on les récupère, ces jeunes. Et en les incluant dans les projets... par exemple, des comités de quartier, des conseils de quartier que nous, on veut complètement réorienter, et ben ces jeunes, ils sont récupérables. Mais monsieur Petit, je pense qu'une fois de plus, vous êtes complètement en dehors des réalités, premièrement, parce que vous n'habitez pas ni au Grand H, ni au Corbusier, ni au quartier de l'Aïa. Vous ne voyez pas la souffrance de ces gens qui habitent là.
Julien, sur le côté sécurité. Alors, oui. C'est vrai qu'il y a des points. Hein. Moi, personnellement, j'habite à Firminy, pas très loin du parc de Soupola, où ça trafique. Avec une caméra au-dessus. Donc je me dis quelquefois à quoi elle sert.
Oui, exactement. C'est vrai que sur cette question-là, il est grand temps d'agir. Moi, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'immobilisme ces dernières années sur ces questions-là, avec une incapacité à régler les problèmes. Et c'est ça qu'attendent les aplous. C'est des élus qui prennent les sujets à bras le corps et puis qui trouvent des solutions. Alors, des fois, c'est des solutions partielles. Je comprends bien qu'il n'y a pas une solution parfaite à tout, mais au moins qui montrent une volonté d'agir. Et là, de ce point de vue-là, j'ai vu aucune volonté d'agir ces dernières années, si ce n'est en achetant toujours plus de caméras, mais étant donné que ces caméras ne servent strictement à rien, alors voilà, Monsieur Petit nous invente une histoire de la semaine dernière, voilà, j'irai quand même un peu vérifier ça, parce que moi je crois plus du tout de ce qui sort de
sur la bouche de M. Petit.
Ces fameux, voilà, parce que, ouais, on nous dit, mais bon, vu que les potons étaient si au grand âge, je vois pas trop ce que ces caméras, elles ont pu relever, et voilà, puis on en est aux caméras qui filment les caméras, donc là, il est temps de changer totalement de logiciel. Je dirais que, voilà, la présence humaine est importante, alors je rejoins Madame Puteau sur l'aspect médiation sociale, mais elle est importante sur l'autorité aussi. Donc moi, je pense pas que les problèmes d'incivilité ou d'insécurité se règlent dans des réunions en mairie ou même derrière des caméras. C'est un outil qui peut être utilisé pour renforcer la présence humaine, mais moi, je crois bien que, voilà, je suis persuadé que la première des réponses, c'est une réponse humaine, et on est quand même certains à pouvoir agir dans ce domaine-là, et j'observe très bien que les élus, en tout cas de la municipalité de M. Petit, qui était en charge sur ces questions-là, et M. Petit en premier lieu, puisqu'il a quand même la qualité d'OPJ hein, en tant que maire.
Officier de police judiciaire,
et il a aussi des pouvoirs de police qu'il n'assume pas du tout. Et c'est une partie d'ailleurs de mes propositions. Ça va être enfin de retourner à une certaine forme de réalité dans un dialogue constructif avec le commissariat, mais surtout que le maire commence un petit peu à assumer ses pouvoirs de police. Et pour assumer ses pouvoirs de police, il n'y a pas 56 façons. Il faut aller au contact. Alors effectivement, il faut aller au contact avec une position d'autorité, entouré par des policiers municipaux, par des adultes, par un adjoint à la sécurité, par des agents aussi de médiation, parce que voilà, il n'y a pas que le bâton qui marche dans la vie. Effectivement,
il faut faire la prévention aussi, sur
la prévention, je suis tout à fait d'accord. Et donc d'ailleurs, il y a beaucoup d'idées sur notre projet. Et nous, je veux vous dire, la prévention, on compte la faire dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à impulser une éducation, un modèle éducatif dès la petite enfance. On veut rentrer dans les écoles pour pouvoir faire passer des messages aux enfants sur l'aspect civisme, ce qui se fait quasiment pas. Hein. Moi, j'ai discuté avec les représentants de l'éducation nationale et l'inspection d'académie. Il va falloir monter une convention, il va falloir faire des choses parce qu'il se passe des choses en périscolaire. Mais moi, je veux rentrer à l'école, je veux rentrer sur le temps scolaire pour parler civisme. Et donc ça, c'est important et ça va participer à ce modèle éducatif et qui est bien aussi dans l'insertion aussi des jeunes. Et puis moi, ce que je veux aussi, c'est vraiment essayer de prendre à bras le corps ces sujets-là personnellement. Donc le maire, en conventionnant avec le procureur de la République, il peut prendre en charge les travaux d'intérêt général, il peut prendre en charge les rappels à la loi, il peut prendre en charge tout un tas de procédures un peu coercitives qui sont jamais prononcées dans les peines parce que plus personne n'a le temps de s'en occuper, visiblement. Voilà, les rappels à la loi, vous pensez bien que le procureur ou que les juges à Saint-Etienne, ils ont un peu autre chose à faire. Donc si le maire de Firminy peut s'en occuper et justement convoquer quand il y a des difficultés de petites délinquances, convoquer les jeunes de Firminy. Mais le problème, c'est ça. Le souci, c'est que la médiation sociale, elle est compliquée avec certains jeunes qui ne sont pas de la commune. Et moi, je discute avec les habitants de ces quartiers-là. J'y suis très, très régulièrement. Et ce qu'on observe, c'est que sur les faits de délinquance, et notamment sur les deals, hein, sur les points de deal, et on en a au moins 4-5 qui sont quand même très importants sur la commune. Hein. Firminy est située à un carrefour entre la région stéphanoise, la Proche-Haute-Loire. Et donc, du coup, elle est un peu au milieu de tout ça. Donc, c'est intéressant pour les dealers de venir faire leurs affaires. Hein. Je peux vous dire qu'au Mile, c'est un supermarché. Quoi. Et on sent que des jeunes, ils sont pas du tout inquiets d'une présence policière. Ils sont pas du tout... Voilà, ils font ça comme s'ils étaient salariés chez McDo. Quoi, hein. Ils ont pas du tout de crainte par rapport à ça, et ils craignent pas du tout la police. Donc il va falloir réinvestir ces quartiers, reprendre pied sur l'espace public, et le maire doit être vraiment en première ligne par rapport à ça, et moi c'est vraiment quelque chose que je veux porter. Et puis ensuite il faut agir sur les deux axes, l'axe préventif éducatif et l'axe répressif. Et je pense que moi je réfléchis même pas, j'ai pas peur des mots, je réfléchis même à une brigade canine qui pourrait aider dans cette cadre là avec des chiens qui pourraient aussi repérer la drogue. Je sais sais que c'est possible. Je me suis renseigné, là c'est une idée qui est apparue récemment, mais je me suis renseigné, on peut récupérer des chiens des brigades des stupes qui ont été formés, voilà, et comme tout citoyen, ben, pouvoir prélever...
Au niveau de la municipalité.
Bien sûr, au niveau, au niveau d'une police municipale, bien évidemment, hein, avec une brigade canine municipale, avec des chiens formés. Ensuite, il suffit juste de bien se caler avec le commissariat pour faire les constatations nécessaires pour que ça reste dans le cadre d'une procédure. Mais j'ai eu les responsables du commissariat de Firminy, ils m'ont indiqué que tout était possible dans ce cadre-là. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Voilà, ne disons pas la police municipale, ses prérogatives sont limitées, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est faux. Elle peut le faire s'il y a une volonté au-dessus, si le maire est vraiment partie prenante de cette politique-là. Et je peux vous dire que moi, je ne vais pas laisser les citoyens des Applous, surtout qui vivent dans ces quartiers les plus populaires, les plus difficiles, qui sont déjà des gens qui vivent avec des revenus modestes. Et alors en plus, se faire rançonner. Attendez, on me parle qu'au Grand H, on se fait rançonner quand on rentre chez soi. Mais après, quand j'entends qu'on laisse pas un pied aux bandits sur le terrain, je suis quand même très étonné, parce que ce témoignage, il m'est apparu encore très récemment. Donc, je veux dire, voilà, ne disons pas n'importe quoi. La sécurité, c'est quand même un bien que l'on doit à nos concitoyens et qu'il faut gérer sérieusement. Et je peux vous dire que c'est une des questions prioritaires que je me fais pour les prochaines années.
Sophie Piton.
Monsieur Louya, à un moment, enfin, vous vous contredites, parce que vous dites qu'ils ne craignent pas la présence policière, et en même temps, vous voulez augmenter le nombre de policiers, alors vous voyez bien que c'est un échec. Donc, et rappelez-vous, je tiens quand même, messieurs, à vous rappeler que quand tout le quartier de Firminy-Vert a été embrasé, qu'est-ce qui s'était passé à l'origine? Il y a un jeune homme qui était décédé dans un commissariat, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Il ne faut pas jouer avec ça. Alors la police municipale, effectivement, sur la brigade canine, nous, on s'était posé la question, effectivement. Parce que ça peut être quelque chose plutôt que de les armer. Parce que cette police municipale, même s'ils sont allés, vous augmentez les effectifs, vous allez vraiment les envoyer en bas du Grand H la nuit? Mais vous vous rendez compte, c'est des agents municipaux. Ils vont appliquer leur droit de retrait, c'est trop dangereux. Et la police nationale, on est d'accord, il en faut plus. Ça, c'est sûr. Monsieur Petit, d'ailleurs, je me demande où est-ce que vous étiez quand il y a eu la réunion au Chambon à ce sujet. Parce que votre absence a été quand même assez remarquée à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, moi, cette surenchère tout le temps de plus de police, plus de caméras, on a bien vu quand même, il y a eu création de police municipale, il y a eu l'installation des caméras, et ça empire d'année en année. Donc, falloir trouver un système alternatif à ça.
Alors, s'il n'y a pas plus de police municipale, vous proposez quoi?
D'abord, la police municipale, il faut réorienter ses missions. Parce qu'aujourd'hui, à Firminy, cette police municipale, elle sert à mettre des amendes à des gens mal garés qui sont aussi excédés. Bah, c'est pas parce qu'on se gare mal qu'on est un délinquant. Donc cette police municipale, il faut la mettre dans les parcs, prioritairement à Firminy, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le parc de Soupola, et effectivement, il y a des gros problèmes dans ce parc. C'est la première chose. On réoriente la police municipale, et on fait qu'elle travaille en lien avec la police nationale, qui se marche pas dessus, qui travaille vraiment main dans la main. Ensuite, la réappropriation d'espaces publics, c'est très important. Ce parc de Soupola, il y a des problèmes, parce qu'il a été laissé à l'abandon, et que les familles n'y vont plus. Donc forcément, les dealers... Bah, ils s'y sont installés et ils y sont bien. Quand je parlais des incroyables comestibles tout à l'heure et de créer du lien social, quand les familles seront en bas du Grand H pour cultiver justement, les dealers ils seront dérangés. Ils seront dérangés parce que justement il y aura des personnes dehors et des personnes qui vont les regarder. Donc là ça va les déranger. Alors je dis pas, peut-être qu'on va déplacer le problème, ils iront plus loin. Mais en tout cas, ce que dit M. Louya, et c'est vrai, il y a des gens qui ont peur de rentrer chez eux. Ils se sentent menacés en bas du Grand H. Donc il faut vraiment... D'abord, peut-être effectivement déplacer le problème et après régler ça avec la police nationale.
Marc Petit, bah, le Grand H, c'est pas que Firminy, il n'y a pas que le Grand H à Firminy, mais il y a quand même des questions par rapport à ça et au parc notamment de Soupola également.
Oui, globalement, tout d'abord par rapport à ce que dit Madame Puteau, ça saurait si qu'avec les éducateurs, qu'avec la prévention, on pouvait résoudre les problèmes. Malheureusement, non. On a des éducateurs.
Trois.
On souhaite, notamment au département.
17 000 habitants, trois.
On souhaite pouvoir renforcer aussi, mais malheureusement. Je dis bien malheureusement, on n'est pas dans le pays des bisounours, qu'avec des éducateurs, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est des sommes en jeu, par rapport ben, notamment à ce qu'on évoque au niveau du trafic de drogue, inimaginable. Inimaginable. Donc oui, il faut de la prévention, mais ça ne suffit pas. Quand M. Louya vous dit que les caméras servent à rien, ben, demandez notamment ce qu'en pense le moindre commissariat de police. C'est devenu indispensable.
Et il y a des agents qui visionnent en permanence comment ça se passe? Parce qu'on ne sait pas en fait.
Non, bah, tout simplement.
Moi je vous pose vraiment la question.
Pas de problème, pas de problème. Donc là actuellement c'est impossible, bah, d'une part parce qu'il n'y a pas assez d'agents, vu le nombre d'agents.
Donc c'est enregistré.
Donc oui, et à ce moment-là, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est que c'est enregistré, ces images sont gardées 15 jours, et elles sont mises à disposition de la police nationale ou de la justice. Et à plusieurs reprises, bien évidemment, ces images ont été utiles, voire déterminantes, pour condamner des personnes, des malfrats ou des personnes qui avaient commis des délits. Donc, ce que je peux dire aussi par rapport à la drogue, non, c'est pas du ressort de la police nationale. C'est pas du ressort de la police municipale. C'est une compétence de la police nationale. Et notre police municipale, non. Leur objectif, c'est pas, comme vous dites, de mettre des amendes. C'est nos agents, nos ASVP, nos agents de sécurité au niveau de la voie et de la prévention. Non, ils ont un tout autre rôle. En gros, il faut garder ce que nous faisons, ces deux voies, à la fois de la prévention, mais aussi de la sanction. Et par contre, ces caméras sont utile, indispensable. Et d'ailleurs, on le fait en partenariat avec le commissariat qui nous indique, par exemple, voilà, qu'ils aimeraient sur tel ou tel lieu qu'on puisse en rajouter, ou on en parle même avec la direction départementale de la sécurité publique. Mais l'élément extrêmement important, c'est qu'il faut absolument qu'on renforce notre commissariat de police. Et là, malheureusement, on subit cet héritage de M. Louis avec M. Sunieri. Et il faut qu'on renforce aussi notre police municipale, mais en fonction aussi de nos contraintes budgétaires. Voilà, donc déjà, on a réussi à passer ce cap-là, et bien évidemment l'objectif c'est qu'après notre police municipale puisse intervenir aussi la nuit dans tous les quartiers, bien évidemment.
Et au niveau de la réunion au Chambon pour la police nationale, vous étiez où, monsieur Petit ?
Ah ben là, je peux vous dire, faire une réunion pour savoir est-ce qu'on va à Paris ou pas, parce qu'il y avait déjà une réunion précédente où le ministre refusait de participer à la demande signée par tous les maires avec le député. J'avais dit, on nous propose un responsable du ministère de l'Intérieur de nous recevoir. On ne dit pas non. Quand il y a une telle urgence, on va à toutes les réunions. Et là, on faisait une réunion pour savoir, c'était le directeur de cabinet qui nous recevait, est-ce qu'on y va ou pas ? J'ai dit, mais bien évidemment, il faut qu'on y aille. Et là, je suis content. Bah, la raison l'a emporté. Il a été décidé de participer. Donc là, c'était une visioconférence avec le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur. Parce que, et d'ailleurs, c'est important, il est en lien direct, permanent avec le ministre de l'Intérieur. Le préfet se bat aussi à nos côtés. Il nous avait annoncé, il m'avait annoncé, comme aux autres collègues, voilà, qu'on aurait ces postes manquants. Le directeur de cabinet nous l'a confirmé aussi. Voilà, il faut participer à toutes les réunions quand c'est en lien notamment avec le ministère national pour obtenir des postes.
Monsieur Petit, quand c'est sur des questions aussi primordiales, ça aurait été bien d'être présent à la réunion et de travailler avec tout le monde, parce que vous étiez le seul maire absent.
Non.
La vallée de l'Andenne.
Excusez-moi, là aussi, c'est comme le programme, vous avez des oublis assez réguliers, malheureusement. Il y avait d'autres maires aussi qui étaient absents. Et participer à une réunion pour savoir si on acceptait une rencontre avec le ministère de l'Intérieur, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Par contre, oui, de participer à toutes, c'est ce que j'ai toujours dit. Hormis, si vous voulez encore polémiquer pour polémiquer.
Junelia.
Oui, non, je dirais, voilà, on sent le mépris à travers ses propos, mépris traditionnel de M. Petit. Évidemment que ce n'est pas une réunion pour savoir si on allait... voilà, c'était justement que cette réunion avec le directeur de cabinet du ministre avait été acceptée et qu'il fallait que les maires se rencontrent pour caler les éléments de langage qu'ils allaient développer à ce M. Bouillon, si je ne m'abuse, donc qui a été un ancien préfet de la Loire, d'ailleurs. Donc c'était pas aussi un élément intéressant avec quelqu'un qui connaissait bien le contexte local. Donc voilà, cette réunion... Elle était importante, bien évidemment. Je dirais que le seul maire marquant qui était absent, c'était M. Petit, puisque effectivement, il y avait un autre maire, une autre mairesse qui était absente. C'était la mairesse de Saint-Paul-en-Cornillon qui s'était excusée. Mais je ne pense pas qu'à Saint-Paul-en-Cornillon, elle ait les mêmes problématiques de sécuritaire qu'on a à Firminy. Donc, bien évidemment, M. Petit, que cette absence était purement honteuse. Je ne vois pas ce que vous auriez pu avoir de plus important que faire de parler de la sécurité de vos administrés. En tout cas, heureusement que les maires des autres communes qui sont touchées par ce style de problème sont un petit peu plus responsables et oublient de faire de la politique politicienne, parce que ce qu'il faut dire, ce que M. Petit ne dit pas, c'est que tout ça a été organisé par Dino Cinieri, et donc ça, je pense qu'il l'avait un petit peu en travers. Et j'observe que le maire de la Ricamarie, le maire d'Unieux, eux savent agir dans l'intérêt général, oublient un petit peu ces différences politiques pour agir pour leur population. Et c'est bien ça, c'est bien pour ça que les gens nous élisent, pas pour qu'on fasse nos petits caprices personnels, mais pour qu'on agisse pour leur bien-être. Et je pense que M. Petit l'a trop souvent oublié ces dernières années. En plus, voilà, moi je dirais que j'ai aucun héritage à défendre, je vois pas de quoi vous parler. Moi je suis un jeune candidat, je mets en place des idées. Ce qui s'est passé, moi, du temps du mandat de Dino Cinieri, en plus, vous savez très bien que cette histoire de fermeture de gendarmerie, en plus, les gendarmes n'intervenaient pas. Ils n'intervenaient pas sur la vallée de l'Andenne. Les gendarmeries intervenaient dans les zones rurales. Ils venaient dormir à Firminy. Voilà, donc ils avaient leur gendarmerie là sur place, mais ils intervenaient. Si, ça pouvait arriver, parce que je me suis renseigné depuis, voilà, ils étaient parfois en renfort, mais c'était pas le cœur de leur action. Comme tout gendarme, ils intervenaient en zone rurale, ils avaient juste un bâtiment sur Firminy. Donc, en plus, cette fermeture de gendarmerie de l'époque, qui n'a pas eu lieu qu'à Firminy, hein, vous pensez bien que c'est pas le maire de la commune qui choisit de fermer une gendarmerie, hein. Ça se joue au niveau national, et je rappelle que ça a été sous le gouvernement Jospin, mais enfin, donc, qui est plutôt un gouvernement de gauche, on va dire. Mais bon, tout ça a peu à peu d'importance. Je pense que c'était il y a très longtemps et aujourd'hui, il faut parler de demain.
Et au final, je crois qu'il y a, combien d'âge, il y a des policiers municipaux en plus hein, qui sont prévus.
En tous les cas, j'espère que je retrouverai le mail de l'invitation et j'espère comme ça vous pourrez le diffuser pour bien montrer que l'objet c'était de savoir si on montait à Paris ou pas. Et quand il y a eu la rencontre avec le directeur cabinet M. Signeri, j'étais présent. Quand il fallait se battre pour obtenir des postes, j'étais présent et je suis intervenu d'ailleurs à de multiples reprises.
Vous auriez pu envoyer l'adjoint à la sécurité, oui. M. Petit, si vous n'étiez pas disponible. Mais bon, l'absence de Firmini était remarquée, je vous le dis, c'est tout.
Oui, je sais que vous aimez bien parfois vous lier avec Monsieur Louya.
Pas du tout, Monsieur Petit. Juste faut regarder. Tout le monde a bien compris. Faut arrêter de se mettre des œillères, Monsieur Petit.
Tout le monde a bien compris. Tout le monde a bien compris.
Ça se voit que vous n'êtes pas vraiment à l'écoute des appelous.
Oui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes et même qui vous ont soutenu aujourd'hui, qui ne vous soutiennent plus et qui nous soutiennent. Et parfois, vous allez
ça,
même.
Ça, c'est ce que vous dites. C'est comme vos 1020 soutiens. Ils sont où les noms?
Ah bah pas de problème.
Mais vos 1020 soutiens, ils sont où les noms?
On a les noms, prénoms, pas de souci. On peut vous les montrer.
Très bien. Publiez-les. Très bien.
Non. Parce que vous allez faire, comme vous avez fait avec certains, les menacer de les exclure de
du
PC.
Mais pas
si.
Arrêtez.
Vous avez menacé plusieurs de les exclure du PCF parce qu'ils me soutenaient.
Arrêtez, Monsieur Petit, avec vos complots. Mais arrêtez.
Pareil,
quand j'entends vos colistiers, certains de vos colistiers me parler de complot franc-maçonnique, mais on nage en plein délire.
Oui.
Mais on nage en plein délire.
Non, mais
plusieurs membres du PCF ont été menacés d'exclusion, vous le savez très bien, et s'il le faut, il y en a qui sont prêts à témoigner.
Quand on part sur une liste dissidente, effectivement, on est exclu, c'est normal. Si demain vous avez vos colistiers qui partent avec Monsieur Louya, vous faites quoi?
Et moi, je n'ai pas exclu Madame Jubon, qui est partie
avec
En Marche.
Mais elle n'est pas dans votre parti.
Mais je ne l'ai pas exclu au niveau de sa délégation. Je ne lui ai pas enlevé sa délégation. Alors qu'elle part avec En Marche. Non, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas sectaire.
Oui, mais elle a été exclue du Parti Socialiste, vous le savez bien. Quand on part sur une liste dissidente, on est exclu, c'est tout.
Je ne suis pas sectaire comme vous, c'est tout.
Mais ce n'est pas être sectaire, Monsieur Petit.
Parce que la personne est sur notre liste, vous menacez d'exclure, et vous avez même fait par rapport à des personnes qui appellent à voter. Alors là, c'est pompon.
C'est faux, c'est complètement faux.
C'est pompon.
Bon, on a bien compris qu'on n'arrivera pas tous à vous mettre d'accord, sinon il n'y aura pas trois listes. Du coup, vous savez, on a beaucoup débordé, On a 75 minutes au lieu de 60. Mais c'est pas grave.
Quand on
aime, on compte pas. Pour terminer, je vais vous demander à chacun, en quelques. Allez, je vous laisse une minute à chacun, pour dire pourquoi il faut aller voter pour votre liste le 28 juin prochain, donc pour le deuxième tour des élections municipales. On commence par qui ? Anne-Sophie Puteau ? Allez.
Oui, alors c'est vrai que nous nous appelons à voter pour l'élan citoyen pour plusieurs raisons. D'abord au niveau du programme, où il est vraiment riche en termes vraiment d'écologie, en termes de démocratie. Non plus, on dit plus démocratie participative, mais démocratie implicante, c'est un nouveau terme. Donc voilà, de ce programme vraiment qui est ambitieux. Ensuite, au niveau du renouvellement, puisque nous, on l'a aussi mis dans le programme, le non-cumul des mandats au bout de deux mandats. Et puis, notre programme, surtout, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est la jeunesse, c'est le renouvellement. Et puis, ce qu'on met aussi beaucoup en avant, c'est l'éthique, parce que c'est quelque chose de très important en politique. Au jour où les citoyens sont plus que défiants envers les politiques, nous, on veut donner à la politique toutes ses lettres de noblesse. Et voilà, donc l'éthique, c'est quelque chose vraiment pour nous de très important.
Marc Petit ?
Oui, c'est très important de voter, et on le sait très bien au deuxième tour, c'est le choix.
Vous n'avez pas tous peur d'ailleurs d'un gros phénomène encore d'abstention ?
Si.
Oui, c'est mon inquiétude. Oui, c'est mon inquiétude. Donc au deuxième tour, on le sait bien, on élit un maire avec une équipe. Donc c'est soit M. Louya, soit Marc Petit.
Soit Anne-Sophie Puteau.
Non, tout le monde sait très bien qu'elle ne sera pas élue. Tout le monde le sait.
Refaites pas l'élection comme ça vous arrange.
Tout le monde
Petit.
Le sait.
Elle est candidate, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas le 28 juin.
Tout le monde sait que c'est M. Louya, Marc Petit, avec son équipe. Tout le monde le sait. Voilà. On met peut-être deux personnes. Voilà. Tout le monde le sait. Quels sont ceux qui ne font pas de promesses irréalistes, démagogiques, et qui respectent la totalité de leurs engagements? C'est notre équipe. On l'a fait de 2008 à 2014, de 2014 à 2020. Où nous sommes à l'écoute de toutes et de tous, parce que nous nous battons pour notre ville, nous aimons notre ville. Nous voulons, je dis surtout attention, on a réussi à mettre en œuvre plein de choses, rien que simplement au niveau du nombre de labels qu'on a obtenus, au niveau régional, national, au niveau européen, au niveau international. Je peux vous dire que ça a été dans tous les domaines une belle, belle mobilisation. On a une ville qui est attractive, on a une ville qui est accueillante, on a une ville qui est dynamique, avec de nombreux projets en cours, où il faut aller plus loin. On l'évoquait, notamment sur la question de la sécurité, bien évidemment, mais comme toutes les villes, même le moins de petits villages. Mais regardons tout ce que nous avons fait et attention, le dimanche 28 juin, c'est les 6 ans à venir pour la ville de Firminy et il ne faudrait pas le regretter. Donc vraiment, j'appelle tous les habitants à voter et à voter, pour, ils le savent très bien, pour notre liste parce que tous les engagements que nous prenons et notamment le premier qu'on a mis en avant maintenant, de faire le maximum pour lutter contre la propagation du coronavirus ou toute autre pandémie afin de protéger les Applous. Ils ont vu notre capacité, quelles que soient les crises, à réagir et à être au plus proche des Applous pour les protéger. Ils peuvent compter sur nous.
Julien Nua.
Oui.
Pourquoi on vote pour votre liste ou quoi?
Je vais quand même réagir sur ça parce que revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un tel décalage entre ce discours de satisfecit général et la situation de la commune dans bien des domaines. Et en plus que Monsieur Petit se présente comme le candidat style le chevalier blanc qui va sauver les Applous du Covid-19. Enfin, quand on voit comment cette crise elle a été gérée, enfin franchement, ça me fait doucement rigoler. S'il s'agissait pas de santé publique, je serais encore plus critique. Mais c'est vrai que il y a un décalage énorme quand même entre la situation que vivent les Applous et ce que vient de nous dire Monsieur Petit. Moi, je crois au contraire que cette commune elle a besoin d'un profond changement, un profond renouvellement dans les habitudes politiques. Il faut en finir avec un certain système. On n'a pas pu encore tout aborder, mais ces derniers temps, on voit des choses au fur et à mesure que les élections approchent, des choses qui me choquent profondément. Il est temps d'en finir avec ce système qui est un système vraiment nauséabond dans certains aspects. Donc il est temps de passer à autre chose, de tourner une page profonde. Moi, je ne représente pas ni un parti. Je ne lance pas des promesses en l'air. Je suis quelqu'un, on a réfléchi avec toute une équipe sur ce projet qu'on va présenter aux Applous, qu'on pense être un projet ambitieux. On l'a réfléchi depuis de nombreux mois, de nombreuses années avec certains. On l'a chiffré, on a essayé de regarder quelles étaient nos marges de manœuvre pour justement ne pas aller sur des fausses promesses en disant si on parle de ce sujet-là, il faut qu'on soit sûr de pouvoir le financer derrière, sûr de pouvoir le mettre en place. Donc on a vraiment fait ce travail en amont qui est un travail de fourmi qui a duré des années, qui nous a demandé beaucoup de soins. Donc Monsieur Petit, bien évidemment, n'est pas seul à pouvoir administrer cette ville, même s'il le dit à longueur de journée. Nous aussi, on a des idées, on a de l'expertise, on a des compétences, on a des gens qui sont des spécialistes dans les domaines de gestion d'une mairie quand même. Quand on voit ce qu'aujourd'hui assume une mairie, il faut en face quand même des gens qui ont du répondant sur ces questions-là. Et sur chaque thématique, on a des gens qui ont vraiment une responsabilité forte dans leur milieu professionnel, dans leur milieu associatif. Et donc, on est en totale capacité de gérer cette ville et de la gérer bien mieux qu'elle n'est gérée aujourd'hui. Et on pourra le faire dès le départ. On est une équipe de grande diversité, on est une équipe de grandes compétences. Donc quand on associe ces deux aspects-là, je pense qu'on ferait une équipe municipale qui tiendrait très bien la route et qui aurait en plus des idées. Et puis nous, on n'est pas sectaire, on travaillera avec tout le monde. J'ai dit que jusque-là, je travaillerais sans difficulté avec Christian Bourbon, notamment sur les thématiques économiques, parce qu'il a des idées, il veut faire bouger cette ville. Et vu qu'on a ce souhait aussi, donc y compris avec les élus qui sont à côté de moi, si les Applous me choisissent et qu'ils décident de rester dans l'opposition, je travaillerai avec eux parce que c'est normal et toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, quelle que soit leur provenance. Et nous, c'est notre vision des choses, une vision dépolitisée, dédramatisée et puis aussi avec une prise de responsabilité parce qu'on se rend compte que soit on fait des messages de satisfaction générale et soit on dit que c'est pas de notre faute, quoi. Donc nous, on veut assumer les choses, on veut que ça change et on est prêt à ce changement et à l'assumer à 100%.
Très bien. En tout cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir accepté ce débat qui s'est tenu d'une manière courtoise. Alors, en tout cas, je pense que les auditrices, les auditeurs ont bien compris quel était à chacun de vous votre point de vue pour le 28 juin. En tout cas, moi, je prends le mot de la fin et je dis le 28 juin, allez voter pour qui vous voulez, allez voter. Mais en tout cas, c'est un droit, mais c'est surtout un devoir. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup.